C'est déroutant parce que c'est nouveau, c'est déroutant parce que ses réactions sont extrêmement fortes.
Je dirais l'éducation, la limite, l'autorité, l'enfant va comprendre que les règles, qui sont les règles que vous donnez, il va les mettre à l'intérieur de lui-même.
Confortable, c'est pas confortable, c'est pas agréable, mais je pense que c'est nécessaire.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, ils doivent vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichoux, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants.
Alors, Julie, Thomas, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?
En fait, nous venons parce que nous avons des questionnements sur le rapport à l'autorité de notre fille.
Mmh. Elle a quel âge, votre fille ?
Elle a 27 mois.
Ok, et qu'est-ce qui se passe alors ?
Depuis quelques mois, je dirais depuis 2-3 mois, c'est notamment tout ce qui est rapport au sommeil, au coucher, ça devient compliqué. Ce qui jusqu'à présent roulait, à savoir, on fait telle et telle chose dans tel ordre, ça se faisait plus ou moins, mais relativement dans de la fluidité, de la souplesse. Là, il y a des gros moments où ça coince. Et où du coup, il faut qu'on dise, maintenant, en fait, c'est comme ça, c'est nous les parents, c'est nous qui décidons. Et tu n'as pas ton mot à dire sur telle ou telle chose. Et là, ça peut partir en crise, en larmes, en je me jette sur le sol, qui nous laisse parfois assez démunis.
C'est-à-dire démunis.
Du coup, nous devons lui dire, ok, t'es pas d'accord, mais là, vraiment, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Là, c'est l'heure d'aller à la crèche, donc tu mets ton manteau, tu montes dans la poussette et on y va. Et ça ne peut pas être des discussions à n'en plus finir. Il faut trancher et... Et c'est déroutant parce que c'est nouveau, c'est déroutant parce que ses réactions sont extrêmement fortes. Ça peut monter très vite, très fort, très haut. Et après, en 2 secondes, redescendre de façon aussi soudaine et subite que ça a monté.
Vous, Thomas, est-ce que vous aussi vous vous sentez en difficulté dans ces moments-là, comme Julie ?
Difficulté, je ne sais pas. C'est plus que... Je pense qu'on ne le dit pas de la même manière.
Mm-hmm.
Et pour moi, l'autorité, c'est... C'est un mot, quoi. Je pense plus à un cadre, c'est-à-dire à comme si de l'eau coulait d'une table, il faut mettre des barrières pour éviter que l'eau inonde tout et tombe par terre, par exemple. Donc c'est plutôt rassurant. Effectivement, le premier contact avec l'eau et la structure qui sera dure, n'est peut-être pas forcément agréable, mais l'idée, c'est de pas de la laisser repousser ou de faire des vagues, mais de rester stable et solide.
Mm-hmm.
Donc c'est comme ça que je le vois.
Et vous, Thomas, est-ce que vous vous sentez plutôt confortable dans le fait d'être cette structure qui va contenir l'eau ?
Confortable, c'est pas confortable, c'est pas agréable, mais je pense que c'est nécessaire.
Mmh.
C'est que c'est rassurant pour l'enfant qui, justement, est cette grande flaque d'eau qui cherche du terrain, qui cherche les limites, justement, pour être contenu, comme il l'était pendant 9 mois, quoi.
Là, vous parlez pendant la grossesse,
ouais.
Vous voulez dire ? Pour vous, Julie, est-ce que cette notion de cadre et de l'importance de la limite, est-ce que c'est aussi clair que pour Thomas ?
C'est clair complètement en théorie. Mm-hmm. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Après, en pratique, pour moi, c'est compliqué parce que je me rends compte que j'ai très peur du moment où l'autorité deviendrait autoritarisme.
Mm-hmm.
Et en fait, le fait de devoir élever la voix, de crier et de tenir une situation comme ça tendue, dans quelque chose qui, pour moi, pourrait être de l'ordre de la violence, c'est compliqué. Et en même temps, j'entends effectivement le besoin de cadrer, de contour. Mais pour moi, c'est très vite, ça peut me faire penser à quelque chose de violent et du coup être difficile.
Mmh.
Après, je dois dire que j'ai fait l'expérience, notamment hier soir, on était toutes les deux. Et en fait, chaque chose a été un mélange de moments super chouettes. Et à un moment donné, ça a commencé à vriller de son côté. Ou genre, non, je veux ça, non, non, non. Et à vraiment se mettre à hurler, à se mettre dans tous ses états. Et en fait, j'ai vu que le moment où moi, j'ai élevé la voix, ou en même temps en étant tranquille avec le fait d'élever la voix et de dire « bah non, en fait, là, c'est pas le temps pour ça. Ça, maintenant, c'est le temps pour ça. Et après, il y aura le temps pour ça. » En fait, ça faisait tout de suite redescendre le truc. Et que de voir que moi, j'étais solide dans, voilà, dans ce que je disais, que j'étais persuadée que c'était pour son bien, pour mon bien, pour notre bien, toutes les deux, bah, ça faisait redescendre le truc. Mais c'était dur parce que ça a été comme ça de, je sais pas, de 17h jusqu'à 21h. Donc ça a été un enchaînement de moments à la fois très bons et très intenses, qui ça montait très vite et ça redescendait. Et ça me demandait à chaque fois d'être vraiment au créneau et de rien lâcher, en fait. Pas en mode ferme et complètement fermé, mais au contraire de dire... Bah non, en fait, là, tu touches la limite, donc ça, c'est pas possible. Donc, on va faire comme ça et c'est moi qui décide. Et oui, t'es pas contente, j'entends que t'es pas contente, mais en fait, là, maintenant, je suis ta maman et c'est moi qui décide.
Vous avez pu lui dire que vous entendiez qu'elle était pas contente, qu'elle aimerait faire autrement.
Oui. Et même pour moi, en fait, c'était libérateur parce qu'il y avait les deux. Il y avait à la fois, je suis ton parent et je mets une limite et je dis... ce qu'on fait, à quel moment on le fait, parce que bah, je suis parent et je décide, et en même temps, j'entends que t'es pas contente et que ça te plaît pas. Je peux le comprendre, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai la main et c'est moi qui décide.
Comment vous comprenez que vous avez réussi à faire ça hier, Julie? De ce que vous disiez avant, j'entendais que voilà, ça n'a pas toujours été possible pour vous.
Comme je disais au début, depuis 2-3 mois, comme on a ces difficultés, effectivement, Thomas disait que pour lui, c'est plus simple, en fait. Il y a un côté, pour lui, c'est plus naturel, à un moment donné, de dire, bon, bah là, stop, ça suffit, c'est terminé. Et puis, limite, la seconde d'après, allez, c'est reparti, on fait des câlins, on joue et tout. Pour moi, c'était étrange, mais le fait d'expérimenter comme ça, sur 2-3 mois, ces moments explosifs qui, moi, me mettaient dans vraiment de l'incompréhension, et en plus, j'avais peur qu'elle soit dans quelque chose de douloureux pour elle, j'ai vu quand même, en le voyant faire, qu'effectivement... pour elle, il y avait quelque chose de rassurant et qui s'apaisait et qui retombait quand il y avait une limite claire qui était posée. Et que oui, parfois, il assumait, il disait, il le dit toujours, ce que je disais tout à l'heure, là, c'est moi qui décide, en fait, et t'as pas ton mot à dire. Au début, je pouvais trouver ça dur. Et aujourd'hui, je vois que sur certains points, effectivement, elle a pas son mot à dire. C'est difficile, enfin, pour moi, ce qui est difficile, c'est de trouver le juste milieu entre la laisser expérimenter, la laisser dire ce qu'elle a envie de faire, etc., et à un moment donné, de dire, ben oui, t'as envie de faire ça, mais moi, là, j'estime que c'est pas possible. Donc, on va faire à ma façon. Et voilà, moi, je suis dans cette recherche d'équilibre.
Donc là, vous dites bien, Julie, le fait de voir Thomas faire autrement et peut-être être un peu plus sévère, ferme...
C'est vous pas de la sévérité. Hein.
Comment?
Pour moi, c'est pas ce que je mets derrière le mot sévérité.
Oui, en tout cas, Julie a perçu, alors mon mot sévère était peut-être en effet pas juste, mais une certaine fermeté. Et une certaine légitimité aussi dans votre positionnement, et a pu voir l'effet que ça avait sur votre fille et que ça avait un effet différent et dans le sens de faire redescendre finalement la cocotte minute qui montait. Qu'est-ce qui se passait avant quand justement vous n'arriviez pas à poser cette limite claire et ferme?
Ça pouvait être elle se jeter par terre et elle restait par terre comme c'était tout nouveau. Moi, ça me laissait désemparée. Et donc, à ne pas savoir quoi faire. Ou alors, ça pouvait être qu'elle se mettait à crier très fort, chose qu'elle ne faisait pas jusqu'alors, très fort et très longtemps. Et pour moi, crier fort et longtemps, ça veut dire j'ai mal, je suis en détresse, viens m'aider. Sauf que là, bah, on passe à autre chose, vu qu'elle a autour de 2 ans, un peu plus de 2 ans. Moi, en fait, ça venait me chercher du côté de... elle a besoin de protection, elle a besoin d'aide. Alors qu'en fait, je crois que j'ai commencé à comprendre que là, ça veut dire autre chose. Ça veut aussi dire, il y a des moments, oui, c'est juste, elle appelle à l'aide et j'y vais. Et il y a des moments, je cherche la limite, je cherche jusqu'où je peux aller. Et je vois aussi comment, je parle pour moi, mais comment maman répond différemment.
Quand, justement, elle se met à hurler, à se rouler par terre, qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là?
Si on est tous les deux, je crois qu'on se regarde en soupirant. On a beaucoup de compassion pour nous-mêmes. Puis je crois qu'on essaye
d'accompagner.
Ouais, et puis d'essayer de rester calme, en fait, et de pas partir. Parce qu'au début, je crois qu'on était très surpris. Il a pu nous arriver peut-être une ou deux fois, presque de rigoler tellement c'était... mais vraiment, tellement on était surpris, tellement c'était nouveau.
Et spectaculaire.
Tellement... Ouais, c'est ça, et tellement c'était fort par rapport à... je sais pas, c'est, je veux une compote, bah écoute, nous, je sais pas, t'en as déjà mangé, enfin 5, je dis n'importe quoi, mais bah non, là, il n'y a pas de compote, on va manger dans, je sais pas, 2 minutes, nous, tu attends.
Du coup, voilà. Il suffit qu'il y ait un chien qui passe, oh, regarde le chien, ah, et puis, ah, chien.
Voilà.
Mmh. Et c'est redescendu tout aussi rapidement. Donc, il y a une idée de détourner aussi l'attention.
Oui, ça, ça marche quand même un peu moins, ça marche pas tout le temps, mais ça peut continuer de marcher. Et du coup, oui, donc il y a eu peut-être voilà, quelques très rares fois où totalement pris au dépourvu, on a rigolé. Mais moi, j'ai eu l'impression que ça a vraiment augmenté, amplifié sa réaction. Et du coup, je me suis dit, OK, là, en fait, il y a quelque chose quand même pour elle qui va pas. Elle nous dit qu'il y a un truc qui va pas, même si ça veut pas forcément dire souffrance. Donc non, rire, c'est pas ajusté. Donc du coup, en fait, on se regarde, on souffle, on fait... Et on essaye soit de voir qu'est-ce qui a pu déclencher ça, soit si on n'arrive pas à trouver... peut-être de revenir au fait, de lui dire, bon ben voilà, là c'est un temps pour ça, là c'est un temps pour ça, ok, peut-être que tu veux faire ça, mais soit on pourra le faire plus tard, soit c'est pas possible. Mais en fait, de vraiment revenir à quelque chose, ouais, peut-être ce dont parlait Thomas, enfin, du cadre, de la fermeté, avec, voilà, j'entends, je vois que là ça déborde, je vois que ça sort et on sait pas quoi en faire. En fait, moi non plus, je sais pas quoi en faire, mais simplement, je peux juste te dire que je suis là et que je suis à côté. Et en fait, moi, très souvent, quand même, j'ai besoin à ce moment-là de rétablir un contact physique. Donc, je la touche, je dis voilà, je suis là, ça va aller. Et il me semble que ça aussi, ça aide à redescendre.
Vous, Thomas, comment vous faites quand vous êtes seule avec votre fille et puis voilà, qu'elle se roule par terre, par exemple, ou qu'elle se met en colère, qu'elle s'oppose?
Je pense qu'une explication à donner à un enfant de cet âge-là, c'est pas une fois que ça marche, c'est une histoire de répétition.
Bien sûr. En tout cas, voilà.
Donc, c'est toujours garder la même posture en fonction d'un événement et de le répéter.
En tout cas, d'autres parents que j'accompagne peuvent me dire, bah, il va jeter une fois, deux fois, trois fois. Je vais dire stop une fois, deux fois, trois fois. Mais
il faut le faire autant de fois qu'il le faudra.
Mm-hmm.
Ça peut, certains arrêtent au bout de 3, peut-être d'autres 10, d'autres 15. Mm-hmm. Je pense que c'est
donc, vous,
c'est
vous répétez ça. Le nom et l'explication.
Ouais.
Oui. Et si je peux me permettre d'ajouter, alors c'est pas fréquent qu'elle fasse ça, mais si elle le fait, moi je dis effectivement, donc non, on fait pas ça ici, en fait, ni nulle part ailleurs, on jette pas la nourriture. Je dis voilà, enfin c'est précieux, il y a des gens qui ont travaillé pour produire ça, c'est de la nourriture, on en a besoin pour manger, donc on respecte. En plus, moi j'ai passé du temps à préparer, donc on respecte ça aussi. Et après, si tu commences à jouer avec la nourriture, ça veut peut-être dire que ça veut dire, moi je pense que tu as plus faim, donc du coup je t'enlève ton assiette et on passe à autre chose. Soit ben, elle a fini le salé, donc du coup je lui propose du sucré, soit c'est le sucré qu'elle a terminé. À ce moment-là, je dis bon, bah, t'es prête à sortir de table, on va jouer. Et voilà. Et en fait, du coup, après, ça se. En tout cas, quand moi ça m'arrive, ça passe comme ça. Éventuellement, je peux lui tenir doucement la main aussi pour lui dire bah, en fait, ça, non, ça, c'est pas possible. Je veux pas que tu jettes la nourriture. Voilà, donc c'est à la fois des paroles, des explications, ou pas trop non plus parce qu'elle est petite, mais quand même, pour moi, c'est important de poser cette chose-là du respect. Voilà, du travail d'autrui, du temps passé par autrui à préparer les choses.
En tout cas, là, vous dites qu'au-delà des mots et de la parole, il y a un changement aussi dans le concret. Vous lui enlevez son assiette, par exemple,
ou alors
vous passez à autre chose.
Ouais. Ou j'essaye d'interpréter et de dire, bah, si tu commences à faire ça, est-ce que ça veut dire que pour toi, voilà, tu n'as plus faim, si j'enlève l'assiette. Et, en fait, la plupart du temps, effectivement, ça veut dire j'ai plus faim, je veux passer à autre chose.
Et puis, elle regarde aussi.
C'est-à-dire
bah, parfois, elle a ce regard malicieux où elle sait qu'elle est en train de tester quelque chose de nouveau. Elle sent elle-même qu'elle est en train de faire quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas convenable. Et elle regarde et elle y va et elle rit. Il y a un test, quoi.
Oui, parfois.
Que c'est malicieux.
Et qui, du coup, vient aussi dire à la fois je teste quelque chose de nouveau et je viens voir avec toi si c'est possible. Et est-ce que tu trouves ça drôle aussi? Est-ce que tu valides que c'est drôle ou pas? Et à ce moment-là, c'est à nous. Bon, bah. De pas nous laisser aller, soit rigoler parce que voilà,
parce que c'est drôle,
de faire une tête rigolote à ce moment-là et tout ça, ou alors de se permettre de rire et de dire bah écoute, là je rigole un peu, mais en fait, voilà, je suis pas d'accord avec
ça. De pas mixer les signaux, quoi, de dire non alors que la tête dit oui,
oui, l'importance d'être clair,
d'être aligné. Après, on est ici autour d'une table, c'est très cool, c'est très calme. Tout ce qu'on dit, on le dit avec la bouche, mais parfois, ça peut être beaucoup plus...
Alors justement, quand vous sortez de vos gonds, voilà, que peut-être vous disiez, Julie, vous mettez à crier, ou voilà,
ouais.
Voilà, au-delà des mots, est-ce qu'il y a pu avoir, voilà, vous aussi, que vous mettiez en colère ou d'avoir des gestes qui vous ont semblé dans l'après-coup déplacés?
Je crois qu'éventuellement, j'ai peut-être... taper sur notre lit ou sur notre coussin en disant « là, j'en peux plus, je suis vraiment trop énervée, trop fatiguée, faut que ça s'arrête ».
Est-ce que du coup, vous pensez que la manière dont vous exercez cette autorité auprès de votre fille, pour l'un et pour l'autre, c'est en lien avec voilà, l'éducation que vous avez reçue chacun ?
Pas du tout.
Mm-hmm. Pas du tout, ouais.
Non, et puis je pense que c'est aussi un sujet nouveau. Ces questions d'autorité, ces questions d'éducation, ces questions de choix d'école. C'est quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire que...
Pour vous, autrefois, il n'y avait pas de questionnement ?
Je pense qu'on était... Non. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas autant qu'aujourd'hui.
Vous, Julie, est-ce que vous avez l'impression voilà, que la manière dont vous arrivez ou non à être autoritaire, c'est-à-dire à poser ses limites à votre fille, sont en lien avec l'éducation que vous avez reçue ?
Oui, clairement. Je pense qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de reproduire, que du coup, je porte une attention particulière. Voilà, quand je disais faire attention à ne pas verser dans l'autoritarisme ou pas être dans quelque chose de l'ordre de la... enfin, qui serait violent pour moi. Oui, clairement, je pense. Mmh. Je pense. Je pense que c'est exactement ça. Il a peut-être plus de facilité à poser le cadre et aller dans la fermeté. Et moi, peut-être un peu plus de facilité, je ne sais pas, par moment, à mettre de la rondeur et des mots. Et du coup, je trouve que l'alliance des deux est plutôt pas mal. En tout cas, moi, je peux me reposer sur lui et que voilà, ça se répond plutôt bien, je trouve.
Ok. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe dans le salon d'à côté. On va rejoindre Sylvie Lafabregue, notre experte. Mm-hmm. Bonjour Sylvie. Bonjour. Lafabregue, vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute. Vous exercez dans des lieux de la petite enfance, dans une école et en crèche en région parisienne. Alors aujourd'hui, l'autorité fait peur, elle effraie les parents, parce que bien souvent, ils s'imaginent qu'elle ne pourrait être que ce qu'elle fut autrefois, c'est-à-dire un instrument destiné à soumettre l'enfant au pouvoir des adultes et donc de susceptible d'atteindre à sa liberté et à sa créativité. Dans les parents que j'accompagne, je vois que beaucoup d'entre eux se posent, comme Julie et Thomas, des questions autour de l'autorité, de comment on va l'exercer, est-ce qu'elle est légitime ou pas, et se sentent vraiment en difficulté par rapport à cette question. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous observez ?
Depuis une dizaine d'années, alors je vois un peu un mouvement de balancier de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu 68 avec interdit d'interdire, les capacités de l'enfant, on s'est beaucoup penché sur ça, donc les enfants qui sont, on les scrute à la loupe, ils sont une place maintenant très très au centre, peut-être trop au centre. Des familles, et je pense que du coup, l'autorité elle fait penser à quelque chose d'extrêmement dur, d'extrêmement non créatif pour l'enfant, très enfermant, alors que ça peut être tout à fait le contraire. C'est l'autorité, c'est pas forcément, je suis d'accord avec vous, c'est pas l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est vraiment tu te tais, tu pars pas à la table, et c'est moi qui ai le pouvoir. L'important, c'est de savoir que l'autorité portée par l'adulte, et que l'adulte est aussi soumis à une loi. Dès que si on dit à un enfant qu'on ne frappe pas, nous, on ne le fait pas nous-mêmes. C'est important. Un enfant qui prend un bonbon dans un supermarché, si on ne dit rien, ça veut dire qu'on n'est pas soumis à la loi. On doit lui dire, écoute, là, c'est pas possible, tu dois aller le rendre, parce que ce n'est pas permis. Voilà, donc c'est d'abord important, moi, ce que je vois, en tout cas depuis une dizaine d'années, et je pense... Après, ça c'est mon interprétation personnelle, c'est que ça va avec le défaut du collectif. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un collectif, les choses sont de plus en plus individualisées. Et donc tout, vous savez, c'est comme dans les entreprises où vous avez des notations individuelles avec des
objectifs annuelles.
Voilà, qu'on ne peut évidemment jamais atteindre. Et je pense que c'est un petit peu comme ça, c'est que tout doit retomber sur le parent. Avant, il y avait une collectivité, il y a une culpabilité des parents très importante. Ce que je pense aussi, c'est qu'il y a tout un courant qui se développe depuis quelques années où, justement, peut-être être ferme, c'est être maltraitant. L'importance des limites, c'est vraiment quelque chose qui va structurer l'enfant. L'idée, l'image, moi j'en avais d'autres, mais votre image de l'eau qui coule sur la table, je trouve ça tout à fait parfait. Voilà, elle doit s'arrêter à un moment donné. C'est extrêmement important. Ça permet à l'enfant de pouvoir vivre des choses et puis de rentrer dans la communauté humaine. On ne va pas castagner son voisin parce que je ne sais trop quoi. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible.
Vous nous dites bien que ces limites, elles sont importantes pour son développement, parce que l'enfant, on disais souvent, voilà, c'est du tout pulsionnel. Donc, il doit apprendre à contrôler, sublimer finalement cette pulsionnalité, parce que lui, il aurait envie de faire ce qu'il veut quand il veut. Mais que ça, pour s'adapter dans la société, voilà, pour vivre en société, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et donc, les parents doivent poser des règles auxquelles l'enfant est soumis, mais auxquelles les parents aussi sont soumis. Ça m'évoque aussi le discours de Françoise Dolto, où voilà, elle parlait du respect de l'enfant, mais souvent, voilà, on a un peu détourné sa pensée, puis on a oublié de souligner la deuxième partie de ce qu'elle disait, c'est oui, il faut respecter l'enfant et apprendre l'enfant à respecter l'adulte. Mmh. Et que ça va, voilà, dans les deux sens.
L'enfant, jusqu'à, en tout cas à l'âge de votre fille, il est dans la toute-puissance. C'est-à-dire que c'est quelque chose, moi j'appelle ça Dieu sur terre. Et puis on lui est en train de lui apprendre que c'est pas comme ça que ça marche. Et que qu'est-ce que c'est difficile, À l'intérieur d'eux, ça boue. C'est-à-dire que c'est la pensée d'un enfant de cet âge-là, c'est quand je veux quelque chose, je dois l'obtenir. Coûte que coûte, à la crèche, il veut le camion qu'a le copain, il n'a aucune importance qu'il soit dans les mains du copain, on s'en fiche complètement. On l'attrape, on le prend. Et ça, c'est vraiment la pensée. Et notre travail, en tout cas de parents, d'éducateurs, d'adultes, c'est de mettre des mots à la place des actes des enfants. Les actes, il va vous taper, ou il va se rouler par terre. C'est vraiment de mettre ça, d'humaniser, donc de poser des mots, et puis de dire, ben non, là, ce n'est pas possible. Mais pour que ce soit possible, il faut que ça soit incarné. Si c'est, il y avait votre exemple, était tout à fait parfait tout à l'heure. J'ai réussi parce que là, c'était pas possible pour moi. Et là, ça marche.
Oui.
C'est pas magique, mais presque, ça marche.
Oui. Du coup, je pense à une phrase que m'a dit une amie il n'y a pas longtemps, qui m'a beaucoup parlé et qui m'aide beaucoup. C'est ce qui est confortable pour l'enfant est inconfortable pour le parent et réciproquement. Et du coup, j'y pense souvent. C'est vrai que du coup, c'est comme un ballet, enfin une espèce de danse où on navigue entre les deux eaux et où voilà, on tente de respecter le bien-être de chacun, mais à un moment donné, si la coupe est pleine pour le parent, ça va pas être possible, quoi. Donc il va falloir voilà, ça m'évoquait ça, ce que vous disiez.
Quelque chose d'une limite qui est vraiment très structurante, parce qu'ils sont, pour reprendre votre image de l'eau, on peut prendre celle des chemins. C'est que nous, on voudrait que l'enfant ait un chemin et que ça va l'aider. Ces bornes du chemin, en fait, ça l'aide. C'est beaucoup plus rassurant pour lui. S'il y a tous les chemins, il a le choix de tous les chemins, c'est extrêmement compliqué. Il ne sait pas lequel prendre. Il est beaucoup trop petit pour choisir. Donc, il a besoin de ces limites-là. Et c'est vrai que ces limites-là, on peut avoir... Moi, je pense qu'on entend beaucoup de choses maintenant. Il ne faut pas dire non, il faut dire des phrases positives, il faut dire des choses... C'est pas grave de dire non. Bien au contraire. Par exemple,
Le non donne de la valeur oui pour moi.
Exactement. Il faut pas dire non à tout parce qu'il faut après faut choisir ses combats. Ce matin, je recevais une famille à la crèche et le papa me dit je ne peux pas. C'est le papa qui est plus en difficulté. Je ne peux pas attacher mon fils dans la voiture. Je ne peux pas. Il met une heure. Comment c'est possible? En fait, parce que je pense qu'il a tellement peur de ce moment-là qu'il ne peut pas y arriver. La mère y arrive très bien, elle le colle, elle l'attache. Parce que certainement que c'est à ce moment-là, les pleurs de l'enfant ou la crise abîment le parent. C'est-à-dire qu'il a peur de ne plus être aimé à ce moment-là. Et ça, c'est très difficile. Comment vous disiez, quand j'ai l'impression qu'elle a mal, elle n'a pas mal. Elle est seulement très en colère. Elle est très en colère. Mais vous, ça vous fait quelque chose. Ça vous atteint parce que à ce moment-là, c'est comme si elle ne vous aimait plus. Vous lui avez refusé le chocolat ou le DVD ou je ne sais trop quoi. Elle ne vous aime pas. Oui, à ce moment-là, elle ne vous aime pas. Mais ce n'est pas grave. Et c'est à vous de tenir derrière. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Ça doit tenir. C'est vraiment l'importance. Vous savez, quand les enfants jouent un jeu qui est très, très intéressant pour ça, c'est les tours gigognes. À cet âge-là, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est faire les tours et avoir un bonheur absolu, c'est de les faire tomber et de reconstruire derrière. Et cette reconstruction, c'est comme si c'était l'image du parent qui tient. Ça tient, ça se reconstruit.
En tout cas, là, Sylvie, vous nous dites bien que l'éducation, ça repose pas que sur la question de l'affection ou de l'amour. Ouais. Et d'ailleurs, ça m'évoque le titre du livre de Claude Amos qui dit « L'amour ne suffit pas ». Qui dit bien voilà, qu'il faut autre chose et qu'il peut y avoir de l'amour dans l'autorité, mais pas que, et il y a besoin de ce « pas que ».
Il y a qu'en fait, il y a quelque chose qui doit être, oui, cette éducation, cette fermeté, ce fait que on va au conflit. Il faut, moi, je pense que, sincèrement, les évitements du conflit, c'est pas possible. Il faut aller au conflit et vous allez en sortir. C'est-à-dire que après, il faut choisir ses combats. Hein. Il ne faut pas dire non à tout non plus, sinon c'est trop difficile. Mais si vous avez des choix de ça, c'est comme si, c'est comme ça chez nous, vous y allez. Je veux dire, c'est vraiment, elle va pas être d'accord, elle va être extrêmement fâchée. Vous allez survivre à ça. Elle aussi. Vous parliez de la colère tout à l'heure. Elle peut pas se passer au-delà de ce qu'elle supporte. Donc, il faut absolument que ça sorte. Et ce qui était intéressant, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la toucher, oui. Mmh. Je sais pas si vous avez déjà été en colère, mais quand on est très en colère, on est débordé, même en tant qu'adulte. Hein. Une fois que ça monte, on peut pas l'arrêter. Donc, on est hors de soi. Et c'est tout à fait ça, hors de soi. Mmh. Donc après, elle a besoin du contact. Elle a besoin de vos mains pour reprendre les limites du corps. Mmh. Mais c'est vraiment très important d'imaginer que pour humaniser, pour que l'enfant soit capable de vivre en société, il doit comprendre, ben oui, on est très très bien avec papa, maman, mais on peut pas tout faire. Cette frustration, on l'a toute notre vie. Mais quand on nous refuse quelque chose, on imagine autre chose. C'est qu'on va rêver, on va imaginer, on va se dire, ben voilà, j'ai pas le, je sais pas quoi, la poupée que je veux, mais je l'aurai plus tard. On va imaginer ça. Et les enfants le font très très bien. Quelque chose qui est dans une, comment dire, un retard de satisfaction immédiate. Oui. Et c'est, on est quand même dans une société où d'immédiateté.
Ah bah Google là, nous le rappelle à chaque recherche, voilà, qu'il a fait la recherche en 0,03 millisecondes.
Voilà. Et voilà, je pense que c'est ça.
C'est
et
puis tout
on,
va,
on attend toute notre vie. On attend toute notre vie. On n'a pas les choses tout de suite. C'est compliqué, mais c'est nécessaire.
En tout cas, là, Sylvie, vous nous rappelez les grands principes qui régissent une société. En effet, on ne peut pas tout avoir tout de suite maintenant, que même la personne la plus puissante du monde ne peut pas tout avoir, qu'on peut tout dire ou tout penser, mais qu'on ne peut pas tout faire. On a beaucoup parlé de ça dans justement l'épisode sur le terrible tout dans parentalité, sur cette période spécifique de 2 ans. Mais je crois que cette question de la frustration, on va la retrouver aussi à tous les âges, et des enfants, mais aussi des adultes.
Oui, j'avais un autre exemple qui me venait en vous écoutant, c'est qui est tout frais là de cette nuit, c'est que du coup depuis quelques semaines, alors qu'il n'y avait aucun problème à ce niveau-là, notre fille dit qu'elle veut dormir avec nous. Donc nous, on lui dit, bah non, en fait, la nuit, tu dors dans ton lit, dans ta chambre, et papa et maman dans leur lit, dans leur chambre. Et du coup, elle prend sa toute petite voix, elle dit, papa, maman. Alors évidemment, mon cœur dit, oh, c'est trop mignon, et puis à l'intérieur, ça fait, mais non, en fait, non, c'est juste non. Et du coup, bah, on est dans la répétition depuis, ça fait une petite semaine, et du coup, ça fait des nuits compliquées, des nuits difficiles. On est fatigué, etc.
Pense que réveiller un adulte en plein milieu de la nuit, c'est pas forcément la meilleure chose au niveau du côté bienveillant
mais
de la voix.
Mais faut tenir. Et du coup, à chaque fois, on la raccompagne. Et bref, le rendormissement peut prendre du temps, mais on tient depuis une semaine. Et en fait, cette nuit, elle s'est réveillée, bon, plus tard que les jours précédents, mais c'était quand même tôt. C'était 6h30. J'ai vu l'heure, j'ai fait non, en fait. Et en fait, sans me lever pour la première fois depuis une semaine, je lui ai dit en restant dans mon lit, il est trop tôt là, moi j'ai besoin de me reposer et toi aussi. Donc tu retournes dans ta chambre et on se voit tout à l'heure. Elle a un petit peu pleuré, elle a un petit peu continué à appeler. J'ai redit la même chose et je lui ai dit on se voit tout à l'heure quand c'est le matin. Je ne l'ai pas entendu et voilà. Et ce matin on s'est levé et tout allait bien. Un petit peu d'espoir quand même.
En tout cas là vous dites, Julie, vous soulignez la question aussi que l'éducation et l'autorité, le respect des règles, ça permet aussi à l'enfant de comprendre quelle est sa place. Alors, quelle est sa place par rapport aux adultes, dans sa famille, dans la société, et que ça, c'est quelque chose qui est important.
Là, elle est en train de comprendre votre fille. C'est l'âge tout à fait des endormissements un petit peu plus tardifs.
À rallonge.
Elle se rend compte que quand elle va se coucher, vous n'allez pas vous coucher tout de suite. Et que ça, c'est quand même fort désagréable, puisque vous avez une vie sans elle. Et ça, elle comprend, et ça ne lui plaît pas du tout. Donc, et puis elle va vérifier la nuit ce que vous y faites, pourquoi ils sont deux et moi je suis toute seule. Donc c'est vraiment, c'est très important. Parce qu'on a l'impression que ça les désangoisse, et en fait ça les angoisse énormément. Puisque sur le moment, ils vont dormir, mais ça veut dire qu'elle est plus forte que vous. C'est que votre nom, il n'y a pas de nom. C'est-à-dire qu'elle n'est plus à sa place. Sa place d'enfant, elle sera un jour une adulte. Pour l'instant, c'est une petite fille. Elle fait des désirs de petite fille, même si elle met vos chaussures par moment et qu'elle, le temps qu'elle les mette, elle se pense très très grande. Elle est une toute petite fille. Et elle ne doit pas être au centre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous devriez, je ne sais pas si c'est possible, mais le week-end, pouvoir faire des choses pour vous, un petit peu. sans qu'elle soit tout le temps dans vos jambes. Elle peut jouer un peu toute seule. Elle peut ouvrir, je sais pas, vous faire les ongles, vous lire un magazine, quelque chose qui soit pour vous, en lui disant, écoute, je finis ça, puis je viens dans 5 minutes.
Ouais.
Alors là-dessus, elle est très autonome. D'accord. C'est assez étonnant, on s'en est pas rendu compte jusqu'au jour où on était chez mon oncle, et où il y avait plein de petits-enfants. Et d'une manière assez étonnée, il nous regarde et fait... Mais elle vient pas toutes les 2 minutes vous montrer ce qu'elle a fait, vous accrochez la jambe. Ben non, elle découvre ta maison, elle lit les bouquins, elle tourne les pages. Mmh. Ah ben c'est étonnant. Et nous, pour nous, c'était normal. Mmh. Sauf que pour lui, c'était extraordinaire. Mmh. Dans le sens extraordinaire. Il n'avait jamais vu ça, un enfant de 2 ans qui s'occupait tout seul et qui en était satisfait.
Et la maison, elle s'occupe toute seule aussi.
Ouais, ah
oui. Elle peut aller dans sa chambre tranquillement.
Ouais. Bon, on l'a tout mis à disposition à sa hauteur dans sa chambre.
Oui, donc ça vous permet, vous, de faire des...
Ah oui, et puis elle se lit les histoires, elle chante toute seule. Enfin, moi, je trouve ça super chouette. Et puis du coup, ça nous libère du temps pour nous, que ça soit à deux ou seul.
C'est ça. Donc là, elle a sa place. Ouais. Là, maman, elle a sa place.
Elle a son intimité aussi, donc c'est important pour moi.
Une petite fille qui peut jouer seule, en votre présence dans la maison, mais qui peut jouer seule.
On ne laisse pas les fenêtres ouvertes avec un escabeau devant. Voilà, pour moi, c'est ça aussi, la sécurité.
Vous imaginez.
Voilà.
En tout cas, vous nous disiez aussi, Sylvie, voilà, que la réaction d'opposition et la colère, elle est normale chez l'enfant et qu'elle est plutôt saine, finalement, face à la limite, mais qu'elle est nécessaire.
Elle est nécessaire. Un enfant qui ne s'oppose pas du tout, on en voit, on est quand même très inquiet. Parce que pour se poser dans la vie, ils doivent s'opposer à vous. C'est-à-dire que, voilà, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne veux pas. Ça leur permet de se différencier, de savoir, de dire « je » un peu plus tard. Un petit peu plus tard. Ils ont ce besoin-là. Et par contre, ce qui est important dans l'idée de la limite, c'est que il y a le non, mais après, il y a l'expression des émotions. Donc, ces émotions-là, elle peut être très, très mécontente, faire une énorme colère, mais voilà. On peut et on doit accompagner cette émotion. Oui, après, pas une fois qu'elle est en colère, mais après, tu es très très en colère, parce que là, c'est pas possible, tu es très en colère parce que je t'ai refusé, je ne sais trop quoi. Voilà, on va en parler. C'est très difficile, je comprends que ce soit très très difficile. Moi aussi, des fois, tu sais, quand je veux quelque chose, ben, je peux pas l'avoir, je me mets pas en colère comme toi, mais j'ai un peu de chagrin. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Différencier la réaction, qui est, voilà, normale, hein, et l'émotion qui est à être accompagnée. Ça, c'est vraiment deux choses très importantes.
Ce que vous dites, là, ça m'évoque ce que vous disiez par rapport à la question du toucher, tout à l'heure, où quand même beaucoup de parents que j'accompagne disent au moment de la crise, c'est pas possible, dans l'éducation bienveillance, il est dit de contenir l'enfant physiquement pendant le moment de la crise. Beaucoup de parents disent finalement, ça, c'est pas possible. On va rester à côté de l'enfant, l'aider à redescendre, mais que le toucher, il va venir après, et qu'après, on va faire un câlin, ou on va parler, on va mettre des mots sur les émotions, mais le toucher n'est pas forcément tout de suite.
Après, puisque c'est comme si, quand un adulte s'énerve, on lui dit « mais t'énerve pas ». Ça ne sert à rien, une fois que c'est fait, la colère monte. Ce qui est très important, moi j'aime beaucoup l'expression « hors de soi », parce que l'enfant est vraiment, il a enlevé ses limites corporelles, je dirais même de la peau, mais la limite corporelle intérieure, sa peau psychique intérieure, ça vole en éclats. Il faut avoir été en colère soi-même pour savoir ce que ça fait. Ils sont très mal. Très, très mal. Ils savent en général plus pourquoi ils ont fait une colère. C'est difficile. Ils sont, voilà, comme ça, hors d'eux. Ils ont besoin. Une fois que la colère a démarré, on peut rien faire.
C'est l'ouragan.
On peut rien faire. C'est soit l'enfant va dans sa chambre tout seul et puis il a fait. Soit il reste là, vous pouvez rester à côté. Après, ils ont vraiment, vraiment besoin de retrouver les limites de leur corps et d'avoir ce toucher. Pendant la colère, ça sert à rien. Enfin. C'est en général, c'est trop. Enfin, il faut laisser aller jusqu'à son terme. Une fois qu'elle a commencé, elle ne peut pas s'arrêter en cours de chemin. Il faut que ça aille jusqu'à son terme.
Julie, vous nous disiez votre vécu par rapport à tout ça. Voilà, la répétition qui peut être très éprouvante, la peur face au comportement de votre fille, et puis la peur qu'elle soit mal, qu'elle ait mal, etc. Comment le parent peut exercer finalement cette autorité? Quel est le rôle du parent, Sylvie?
Alors, le rôle du parent, c'est vraiment de tenir quelque chose. Voilà, vous avez décidé qu'en couple, que ça, c'est pas possible dans votre vie familiale. Après, il y a les choses de la vie extérieure, mais la vie familiale, ça, ce n'est pas possible. Le tenir, c'est douloureux pour l'adulte parce qu'on a l'impression qu'on peut faire du mal à l'enfant. Vous le disiez tout à fait, elle a mal. Le tenir, c'est comme ça. Et pas dire oui, parce que non, 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 et dire oui, parce que de lassitude, parce qu'on est très fatigué, et d'avoir une espèce de cohérence, c'est-à-dire que si c'est oui ou c'est non le lundi, ça doit être non le mardi. Et ce qui est très important aussi en couple, c'est que quand on n'est pas forcément d'accord sur les choses, en général, c'est les pères qui sont plus fermes. Et si ça vous est difficile, il ne faut pas intervenir. Ça, c'est très compliqué, mais il vaut mieux aller dans une autre pièce. Le papa se débrouille très bien avec son enfant. Moi, je sais qu'il y a des certaines mamans qui me disent « Mais moi, je peux pas parce qu'il s'énerve. » Je dis « Oui, et alors ?» Ben, je peux pas parce qu'elle pleure, oui, il pleure, oui, et alors? Et en fait, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il va se confronter, cet enfant se confronte à un père qui ne faut pas aller chercher, faut pas aller le chercher de ce côté-là, parce que je ne sais trop quelle raison, mais, voilà, il faut pas intervenir.
Oui, donc là, vous dites bien que le parent doit s'opposer à la toute-puissance infantile, voilà, à ce pulsionnel c'est pas, tout à fait. Dont on parlait tout à l'heure, pour lui apprendre aussi à le contrôler et à le maîtriser par la suite. Vous disiez, Julie et Thomas, que vous expliquez, alors moi, j'entends beaucoup de parents qui expliquent beaucoup.
Voilà. Trop. Je pense que à deux ans et demi, ils ne peuvent pas comprendre. Une phrase très simple, le reste, quand c'est non, c'est non.
Et quand l'enfant est plus grand?
Quand l'enfant est plus grand, c'est différent. Alors, je dirais, au-delà à partir de 3 ans, c'est différent. Il peut pouvoir comprendre, il peut dire, bah voilà, excuse-moi, pardon, je t'ai fait mal. Ça, c'est possible. Avant, c'est absolument impossible. Ils peuvent pas comprendre ça. Ils sont beaucoup, beaucoup trop petits. En fait, je dirais, l'éducation, la limite, l'autorité, c'est essayer de faire passer la police, entre guillemets, extérieure, qui sont les adultes, à une police intérieure. C'est-à-dire que l'enfant va comprendre que les règles, qui sont les règles que vous donnez, il va les mettre à l'intérieur de lui-même. Ça prend du temps, hein. Voilà. Et comme nous, on a nos règles, on les porte à l'intérieur de nous-mêmes.
Donc, plus l'enfant va grandir, plus il va avoir besoin de comprendre pour pouvoir la mettre à l'intérieur de lui. Donc, là, les explications vont être plus fournies et plus importantes, même si, évidemment, avant, on peut poser des mots et puis, notamment, reconnaître ce que vit l'enfant, vous disiez sur les émotions, Julie. J'entends aussi souvent cette question, est-ce qu'on doit demander un peu l'adhésion de l'enfant? En tout cas, voilà. Je pose le nom, mais le parent qui ne sent pas forcément légitime va adopter une attitude où il va demander finalement presque l'accord de l'enfant.
C'est ça, ce qu'on peut voir souvent, c'est-à-dire qu'en fait, comme on a tellement peur de plus être aimé à ce moment-là et que l'enfant soit mal, on pose un nom, sauf que ce n'est pas possible. Le nom est fait pour qu'il ne soit pas d'accord. Il ne va pas être d'accord et c'est à nous d'accompagner, de mettre des mots, pas sur le nom, mais sur l'émotion que ça déclenche. Alors là, on parle de colère, mais il y a des enfants qui sont dans un déni total. C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Enfin, moi, je le vois beaucoup en crèche. Les équipes me disent, mais vous ne croyez pas qu'il est sourd, s'il est vigilant? Non, il n'est pas sourd du tout. Il ne veut pas entendre, il n'entend pas. Voilà, parce que c'est une réaction à ce qu'on lui demande. On lui demande quelque chose. Vous avez tout à l'heure, vous évoquiez quelque chose qui me faisait penser à une situation en crèche, une petite fille. Quand je viens en crèche, je viens 2 fois, 3 fois par mois. Et les enfants me testent beaucoup parce qu'ils se disent, tiens, elle vient pas souvent. Elle doit pas savoir qu'on n'a pas le droit de monter sur les tables. Et cette petite fille, donc, montait sur un meuble en me regardant, mais avec un sourire jusque là. Et je lui dis, mais tu sais, moi, je sais qu'on n'a pas le droit de monter sur le meuble. Et elle continue à me regarder, mais je lui dis, je ne baisserai pas les yeux parce que je sais que dès que j'aurai baissé les yeux, tu vas recommencer. Alors là, elle sourit un petit peu moins. Et du coup, elle a arrêté. Mais parce que voilà, tenir quelque chose, le tenir. Si j'avais tourné la tête, c'était fini.
Voilà. En tout cas, dans la manière là où vous avez tenu, j'entends qu'il y a aussi beaucoup de bienveillance.
Oui, c'est ça. C'est quelque chose de pas. C'est pas quelque chose d'agressif. C'est quelque chose, voilà. Je sais que tu me testes dans cette histoire-là, mais je t'accompagne, parce que je sais que c'est très important que tu ne montes pas sur ce meuble, parce que personne ne doit y monter, toi non plus. Mmh. Et quelque chose, voilà, qui en fait, mais on peut faire autre chose. Si tu veux, viens, on va lire un livre, ou on va jouer au ballon, on va, voilà. Mais ça, ce n'est pas permis.
Oui, une alternative.
L'alternative.
Alors ça, elle l'a vachement bien compris. Parce qu'en plein milieu de la nuit, on lui dit, eh ben non, c'est dodo. Elle nous propose une alternative. Gommette ou lire un livre?
Alors ça m'évoque la question de la négociation, voilà. Où il y a beaucoup, de plus en plus de parents aussi qui rentrent dans ces questions-là de négociation, de peur de se confronter à la colère et à l'opposition de l'enfant. Est-ce que il y a des règles qui sont discutables?
Alors, celles qui ne sont pas discutables, c'est on s'attache en voiture, on tient la main pour traverser la rue. Enfin, on ne tape pas, on crache pas, on pince pas. Voilà, ça c'est. Et puis après, il y a les règles familiales. Ça m'évoque par exemple une maman que j'avais vue, et tous les soirs c'était une colère absolument atroce de la petite ou du petit, je ne sais plus, parce que la maman voulait absolument que la chambre soit rangée tous les soirs. Et je lui dis, mais est-ce que c'est si important que cela? Est-ce que ça peut pas être un peu... Voilà, pour moi, ça, c'est une règle qui se discute. Est-ce que c'est pas quelque chose de l'organisation familiale qui déclenche des choses qui pourraient être évitées, ou les parents qui veulent absolument que les enfants mettent les chaussons et l'enfant veut absolument être pieds nus? Est-ce que c'est si important que cela? Vous voyez, moi, je pense qu'il y a des choix de combat.
Oui, en tout cas, là, vous dites qu'il y a des choses qui sont pas discutables, qui sont de l'ordre de la sécurité ou de la loi commune, de voilà. Ce qui s'applique à tous, aux enfants et aux adultes. On tue pas, on crache pas, on respecte les autres. Et puis, ce qui est de l'ordre de règles qui, finalement, ont pas du tout le même impact, des règles de vie intrafamiliale, de fonctionnement, qui n'ont pas d'incidence directe sur le c'est développement ça. De l'enfant.
Si l'enfant veut être pieds nus, le problème est où? Nulle part. Sauf que sinon, on préfère avoir des chaussons. Enfin, c'est pas grave. Et voilà, c'est qu'important. Moi, je voudrais revenir aussi sur l'idée du choix. On peut pas laisser choisir un enfant. À 2 ans, 2 ans et demi, ce n'est pas possible. Parce que choisir, c'est renoncer à quelque chose. Et renoncer, c'est très douloureux. On peut pas, par exemple, on peut pas demander à un enfant de 2 ans et 2 ans et demi ce qu'il veut manger. Ce n'est pas possible. C'est impossible, puisque vous allez sortir quelque chose. Il va pas le vouloir. Il va vouloir l'autre. Vous sortez l'autre, il veut plus rien. Parce qu'il peut pas faire. Il peut pas.
À partir de quel âge un enfant peut commencer à choisir?
Alors, ça, la nourriture, moi, je pense que c'est plus tard. C'est vraiment beaucoup plus tard. Après, le choix, ça peut être le choix de certains enfants veulent mettre ce manteau-là avant de sortir. Alors, je pense qu'on, pour éviter les conflits le matin, c'est peut-être mieux de préparer les vêtements la veille. Voilà, il faut organiser aussi les choses. Mais en tout cas, 2 ans, 2 ans et demi, ça les met dans un truc beaucoup trop vaste. Et le choix, c'est comme on parlait tout à l'heure de plein de chemins.
C'est se noyer, en fait.
Mais pour les parents qui nous écoutent et qui ont certainement des enfants, voilà, plus grands et qui se posent, voilà, peut-être cette question, à partir de quel moment on peut, alors j'imagine peut-être c'est progressivement qu'on va les rendre acteurs.
Voilà.
Au départ sur des petites choses, peut-être les vêtements, proposer 2 tenues. Correspondant à la saison.
Ouais,
et au climat, à la météo. Et puis après, petit à petit, finalement, ces choix vont grandir et vont concerner des choses de plus en plus importantes le concernant.
Je pense à le choix de l'histoire du soir, c'est important. Les vêtements, le choix des jeux, si vous allez offrir un jeu, qu'est-ce qu'il préfère, sachant que si c'est un, c'est pas deux. Voilà, quelque chose de s'il va au manège, sur quoi il veut monter.
Combien
voilà. Un tour.
Voilà.
Ils ont autant de plaisir avec 1 qu'avec 10. Après, ils ne descendent plus. Mais voilà, c'est vraiment, les choses sont tout à fait progressives. Mais là, l'enfant est beaucoup trop petit. On le met dans une situation difficile si on le laisse choisir à ça-là. Et après, comme vous disiez, c'est plus progressivement.
Qu'est-ce qui se passe pour les parents qui sont dans cette négociation permanente avec leur enfant?
Ils sont vigilants en permanence. C'est-à-dire qu'ils sont constamment à regarder comment l'enfant est. Et ça va déclencher la crise. Et je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas assuré chez eux. De tenir, justement. Est-ce qu'à ce moment-là, si tu fais ci, je vais faire ça? Pour l'enfant, je pense que c'est très, très inquiétant. Ça les inquiète beaucoup. Ils savent que l'autre en face n'est pas sûr, n'est pas sécure. Et qu'il a peur, certainement, de perdre l'amour de son enfant à ce moment-là. Et qu'on négocie pas. Il y a des choses qu'on négocie pas. C'est comme ça.
Peut-être que la négociation aussi met sur un pied d'égalité les parents et les enfants alors qu'ils n'ont pas à l'être. Et que ça peut amener de la confusion pour les enfants.
La place de l'enfant, c'est la place de l'enfant. C'est pas du tout la place du parent. C'est vous qui décidez de beaucoup de choses. Il va apprendre tout ce chemin en vous imitant, en mettant ce qu'on parlait tout à l'heure de cette police externe, la mettre à l'intérieur de lui. C'est ça qui va le faire grandir, qui va l'humaniser totalement.
Mais du coup, Sylvie, concrètement, comment le parent peut exercer son autorité? Alors, vous nous avez déjà dit un peu en étant ferme, en étant clair, en respectant lui-même la limite qu'il a posée. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses auxquelles le parent doit être attentif?
Moi, le mimétisme. C'est-à-dire que c'est pas fait ce que je dis, mais fait ce que je fais. Enfin, c'est, on peut pas dire mange pas avec les doigts et puis deux minutes après manger des frites avec les mains.
Oui, c'est la cohérence.
Mmh. Voilà, c'est la cohérence du socle. Puis ça me fait penser à un lit ou un canapé. On se sent bien parce que c'est ferme. Si c'est tout mou et que ça s'effondre, on sait pas où est le sol, où est le socle, où est la limite. Finalement, on est très mal à l'aise.
Mais cette histoire de cohérence est importante. Et quand je dis tout à l'heure, c'est ce qu'on décide de non le lundi ne doit pas être oui le mardi. C'est pas possible. L'enfant, il a besoin de règles extrêmement simples. Plus c'est compliqué et plus il y en a, plus c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut choisir ses combats. Mais vraiment quelque chose de simple, de cohérent et de cohérent à vous deux. À vous deux. Et l'enfant doit comprendre que vous vous parlez. Viens vous demander un bonbon, peut-être un peu petit. Vous dites non, ben elle est là.
Mais ça, c'est toute la vie. Moi, je me rappelle jusqu'à l'adolescence. Tiens, je veux sortir samedi soir. Ah ben non, t'es déjà sorti vendredi. Bon, ben, tu sais que tu peux aller voir soit maman, soit papa, parce qu'il y en a un qui va dire OK.
Oui, mais sauf
donc,
que c'est
aller chercher la faille.
Intéressant que les parents... Ben, je vais demander à ton père ou à ta mère et je vais voir... nous allons décider ensemble. Et ça, là, ça coince un petit peu. Ils se rendent compte que les parents peuvent se parler.
Mmh. Et ben, ils font bloc. Et je pense que l'enfant cherche la faille et vient pile dedans, où il y en a un qui dit non, 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 ce qui peut agacer l'autre. Et du coup, oh, bah là, ici, donne-lui ou fais ci, va dans son sens. Et en fait, l'enfant a gagné cette bataille-là. Parce que du coup, il a dissolu le couple parental. Et ça, je pense que ça peut être un risque. C'est-à-dire que même si on n'est pas forcément sur l'instant d'accord avec son conjoint, c'est quand même faire bloc.
Il faut laisser faire.
Voilà. Ou si il y a une direction qui est prise où
il faut quitter la pièce.
Mais rester unis dans cette prise de position et garder cette cohérence.
Et laisser la place, enfin c'est plutôt pour les mamans que je m'adresse, c'est laisser la place au père. C'est-à-dire que voilà, un père n'est pas une mère. En général, il y a la fermeté, peut-être des fois moins de patience, mais c'est comme ça.
En tout cas, là, vous dites, Sylvie, l'importance de sortir aussi de la dualité, que parfois, quand il y a conflit dans l'application d'une règle ou d'une limite, on est dans la dualité. Et finalement, faire intervenir la loi, le tiers, alors qu'il peut être représenté par le père ou par la mère ou par un tiers extérieur, que c'est quelque chose qui permet aussi de sortir du conflit, qui ouvre. Et puis, voilà, qui rappelle aussi la loi, qui est la même pour tous.
Qui permet aussi, justement, de quitter cette idée de la frustration immédiate. C'est-à-dire que ça ouvre sur « on peut penser ». Si on répond tout le temps, tout de suite, l'enfant, il n'a aucune raison de penser. Il n'a aucune raison de parler, non plus. Puisque si on ne parle que dans la distance. Si on est complètement collé, si on a tout de suite ce que l'on veut, aucune raison de parler. Un suffit. Il n'y a pas besoin.
C'est dans un livre, ça. Je ne sais plus quel livre pour enfants où il y a une phrase, c'est blablabla. En gros, tu vas te coucher, c'est la loi. Et en fait, je me la suis appropriée très vite parce que je la trouve très juste. Parce qu'elle distancie. C'est pas moi qui décide, c'est la loi.
Ça n'est pas le désir du parent.
Voilà, c'est comme ça, c'est la loi. Ouais. Et comme dit la phrase latine, hein, dura lex sed lex, la loi est dure, mais ainsi est la loi. Et c'est dur. Donc ça peut frustrer, ça peut. Faire du chagrin, de la tristesse.
C'est la différence entre autorité et autoritarisme.
Voilà.
Autorité, l'adulte, le parent est aussi soumis à la loi. L'autoritarisme, c'est la loi du parent. C'est pas la même chose. Mmh. C'est quelque chose de, c'est moi qui décide.
Mais j'y vois un côté abusif aussi.
Oui, mais c'est quelque chose de, c'est comme si moi je n'y étais pas soumis. L'autoritarisme, je ne suis pas soumis à cette loi, moi.
Par contre, toi, oui.
Voilà. Donc c'est vraiment l'idée de soumettre, mais plus que soumettre, parce que quand on dit non à un enfant, on le soumet à quelque chose, il doit obéir. Même si c'est des mots qui sont un petit peu gros maintenant, mais il y a quand même ça. L'autoritarisme, c'est vraiment, il n'y a pas de loi, la loi c'est moi.
Il n'y a pas de tiers.
Donc je suis au-dessus des lois.
Dans les parents que j'accompagne, il y en a beaucoup qui sont en difficulté par rapport à la question de la punition et de la sanction. Est-ce que Julie, Thomas, ça vous est arrivé de punir votre fille?
Pas encore, mais j'y vois pas de problème dans le sens où si je tue ma voisine ou mon voisin, je vais être puni. Et c'est un peu comme ça que notre monde est régi. Donc il y a un prix à payer, quoi. C'est pour ça que les prisons existent, c'est pour ça que les avocats, les juges, enfin toute l'institution fonctionne comme ça. Oui, la justice.
Enfin là, ton exemple est quand même un peu extrême, même si je crois que je vois l'idée, mais non, je sais pas, on n'a pas encore été confronté à ça. Après, moi, je suis quand même vigilante à l'idée, je sais pas, de pas verser dans quelque chose de l'ordre non plus de l'humiliation ou de voilà, mais vraiment essayer de penser Bon, c'est un peu le courant aujourd'hui, mais de comment elle peut contribuer à réparer, voilà, de comment on peut faire ensemble. Et que, enfin, je vais pas la mettre, je sais pas, toute seule. Je vois pas ce que ça apporterait, par exemple, de la mettre toute seule dans un coin. Bon, voilà. Après, ça vient pas tout de suite, donc on verra quand.
On n'a pas encore été confronté.
Sylvie,
en fait.
Une punition est-elle forcément humiliante?
Non. Par contre, tout à l'heure, vous parliez des assiettes par terre. Mm. Moi, je pense que elle peut réparer. Elle est suffisamment grande pour ramasser. C'est-à-dire que au bout de la c'est par terre, bah, écoute, là, tu vas m'aider, tu ne peux pas faire ça, donc là, tu vas ramasser. Tu vas ramasser les pâtes, tu vas les remettre dans l'assiette, puis on va les mettre à la poubelle, mais tu ne peux pas faire ça. Mmh. Et du coup, elle va bien voir que là, c'est pas pareil.
Mais qu'il y a des conséquences.
Il y a des conséquences. L'idée que vous disiez, mettre l'enfant dans sa chambre, moi, je crois qu'il vaut mieux pas fermer la porte, mettre l'enfant dans sa chambre, que de s'énerver très fort. Il va se calmer, tout le monde va se calmer, ça va être beaucoup plus serein que de s'énerver et de dire que là, il vaut mieux prendre un peu de distance. Hein, parce que voilà, c'est pas forcément. Et sanction n'est pas forcément humiliation. C'est vraiment quelque chose. Là, ce que tu as fait, ce n'est pas possible. Mmh. Donc, moi, je vois en crèche, par exemple, des enfants, bon, comme ils sont beaucoup. Pas les uns sur les autres, mais bon, il peut y avoir des affrontements entre enfants. À un moment, on peut prendre l'enfant et on lui dit écoute, là, tu ne peux plus être dans le groupe. Tu vas sortir du groupe, tu vas te mettre sur une petite chaise à côté de l'adulte. C'est pas une sanction en tant que telle. C'est que tu ne peux plus. Là, tu es trop excité, tu me fais du mal aux autres, tu vas venir un petit peu à côté de moi te calmer 5 minutes, et après. Mais c'est quelque chose qui est possible aussi. Là, tu es trop dans tous tes états, c'est trop difficile pour toi, tu vas te calmer un petit peu. Alors, ah oui, l'idée de ne pas fermer la porte, il veut pas, toutes ces, pas mettre dans le lit. Enfin bon, il y a plein de choses.
Touche froide, voilà, coup de ceinture, tout.
Voilà. Mais voilà, quelque chose où il y a aussi, ça marque aussi un arrêt autre que la parole.
Vous nous disiez, Sylvie, voilà, que c'est finalement, il y a le fait de pouvoir accepter aussi qu'il y ait conflit avec l'enfant. Alors, parfois, ça, c'est pas toujours acceptable pour le parent ou les parents qui sont en grande difficulté, qui n'arrivent pas à poser cette autorité. À quel moment ils doivent se faire aider, accompagner, auprès de qui?
Alors, moi, je pense que quand ça devient, les soirées deviennent épouvantables, qu'il n'y a plus de week-end, qu'on ne peut plus rien faire, que certains enfants se couchent à 23 heures.
Oui. Qu'il n'y a plus d'espace pour les parents.
Pour le couple, que vous n'êtes plus que des parents, que l'enfant est devenu un tyran domestique.
Des esclaves.
Des esclaves. L'enfant est le tyran, est tellement au centre des choses que vous vous rendez compte que vous ne faites plus rien. Là, il faut vraiment se faire aider. Ce n'est pas possible. L'enfant ne peut pas. Il y a les colères, il y a le non, c'est du classique. Mais quand c'est tout tourne autour de lui, les parents sont complètement vigilants à regarder, attention, ça va démarrer, attention, il faut qu'il appuie sur le bouton, parce que c'est pas sur le bouton, ça va être une colère. On est dans un truc qui dépasse. Et là, il faut vraiment se faire aider, quand ce n'est plus possible, quand il y a plus de vie tranquille, quand le week-end devient... C'est une appréhension terrible.
Vivement que je retourne au boulot.
Vivement que je retourne au travail, ouais, c'est pour la crèche.
J'ai déjà entendu
et,
ça.
Bien sûr, quand voilà, ça déborde de partout et que on a l'impression que le pouvoir a changé de place. Que le pouvoir, c'est quand même les parents, c'est pas l'enfant.
Donc là, il faut pas hésiter, que les parents hésitent pas à aller
consulter
la psychologue de la crèche, à l'école ou
la PMI,
en libéral, la PMI,
voilà.
Les CNPP,
le CNP, voilà.
Etc.
Tout à fait.
Comme vous nous l'avez si bien dit, Sylvie, l'autorité, elle est indispensable au bon développement de l'enfant. Elle lui permet d'acquérir et d'intégrer les règles indispensables à la vie en société. Les limites vont lui donner un cadre structurant, éviter voilà que l'eau inonde tout pour grandir, voilà, apprendre à contrôler sa pulsionnalité et puis d'avoir accès, lui permettre d'avoir accès de la place pour les apprentissages. Donc évidemment, cette autorité, elle ne doit pas être dictatoriale, autoritariste, hein, va faire preuve d'autorité, mais pas forcément être autoritaire, tout en respectant l'enfance, voilà, lui permettre de grandir dans de bonnes conditions. Souvent, je recommande des lectures à mes patients. Thomas, Julie, est-ce que voilà, vous avez lu quelque chose sur le sujet ou est-ce que vous auriez un conseil à donner aux parents qui nous écoutent?
Je vais laisser plutôt Julie parce que je ne lis rien du tout sur ce sujet-là. Je n'ai pas envie et je préfère vivre l'expérience et m'enrichir de ça. Donc.
Ben moi, je pense à Parents efficaces. Je ne me souviens plus l'auteur.
les parents trouveront certainement, voilà. Parents efficaces. Sylvie, est-ce que vous avez quelque
Alors,
chose
moi,
à recommander
j'ai un...
aux parents ?
C'est pas un livre, c'est un... Enfin, il y a un livre, mais il y a aussi un film, qui est un vieux film, et je vous engage à le revoir, si vous l'avez déjà vu, ce qui s'appelle « Sa majesté des mouches » de Peter Brook. Ce sont des enfants beaucoup plus grands, mais ce n'est pas grave, ça montre toute cette pulsionnalité et toute l'importance de l'adulte pour l'enfant. Et puis le dernier, Patrick Bensoussan, qui est absolument à mourir de rire. Je viens de le finir, justement avant là, ça s'appelle « Survivre à ses enfants ». Je vous engage à le lire, tout est dit, je riais toute seule dans le métro en le lisant. C'est très, très, très drôle et tellement déculpabilisant. Mmh. Voilà.
Alors moi, je recommanderais quelque chose d'un petit peu plus sérieux, un livre de Claude Almos qui s'appelle « L'autorité expliquée aux parents », voilà, qui reprend beaucoup de choses dont vous nous avez parlé, Sylvie, et qui est voilà très très éclairant et facile à lire. Merci Thomas et Julie d'être venus partager avec nous votre vécu autour de cette question de l'autorité. Merci beaucoup Sylvie Lafabregue. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience et vos conseils. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.